Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 14 février 2025, il est 8h à Gundam. Fidèles auditeurs, merci de nous choisir pour vous informer. Le sommaire. Ce jeudi 13 février a été célébrée Journée mondiale de la radio. Studio Tamani et ses partenaires ont organisé une cérémonie marquant cette commémoration. C'était en présence des autorités et beaucoup d'autres personnalités. Le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration a été lancé ce mardi. Il concerne 3000 ex-combattants. Les dossiers de la semaine s'intéressent à la prolifération des jus sur le marché malien. Quelles sont les conditions de production de ces jus? La réponse en fin d'édition. Ce journal vous est présenté par Lala Diahara Touré et Adratou Traoré pour la mise en onde. La journée mondiale de la radio a été célébrée hier jeudi 13 février à travers le monde. Au Mali, le thème choisi pour cette édition était « La radio face aux urgences climatiques, alerter, sensibiliser, agir pour un Mali résilient ». Studio Tamani et ses partenaires, l'URTEL et la Maison de la Presse, ont sacrifié à la tradition en organisant une cérémonie pour marquer cette journée. L'occasion était toute trouvée pour rappeler le rôle de la radio dans la lutte contre les effets du changement climatique. Adamo Amadou Haïdara.
Après avoir rappelé l'objectif de cette journée de la radio, le président de l'URTEL a salué la pertinence du thème de cette édition. Mamoudou Boukou.
Au cours des dernières décennies, grâce aux médias, les concepts liés au changement climatique ont été présentés de manière claire et compréhensible, et ce qui a permis au grand public de mieux cerner la nécessité de protéger notre environnement. Les médias en général et particulièrement les radios de proximité, aussi bien géographiques que culturelles et linguistiques, sont incontournables pour la réduction des risques de catastrophes liés au changement climatique.
Dans la même veine, le représentant de la Fondation Hirondelle au Mali a rappelé le rôle important de la radio dans le contexte de crise climatique. Espérant Moulumba.
Celui d'informer les populations, d'amplifier les voix des acteurs du changement et d'encourager des actions concrètes pour un avenir plus durable. Depuis 30 ans, la Fondation Hirondelle s'engage à offrir une information fiable et indépendante aux populations vivant dans des contextes de crise et de transition.
Le président de l'URTEL a demandé aux autorités l'annulation des nouveaux arrêtés ministériels prévoyant l'augmentation des tarifs de redevance pour les médias audiovisuels et en ligne. Un appel que le représentant du ministre de la Communication s'est engagé à transmettre à qui de droit.
Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Actualité à l'intérieur du pays, 15 morts et des portés disparus, c'est le bilan d'une attaque perpétrée mercredi dernier contre des paisibles citoyens à Berta, près de Saro, dans l'interfleuve de Massina. Selon des sources locales, l'assaut a été mené par des hommes armés non identifiés. Les mêmes sources ajoutent que l'attaque s'est produite alors que des hommes partaient à la pêche. Ils ont donc été surpris par ces hommes armés non identifiés. Autre grande ligne de l'actualité, le lancement d'un nouveau processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration a lieu ce mardi 11 février 2025. 3000 ex-combattants devraient intégrer l'armée malienne à l'issue de ce processus piloté par le département de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Selon le ministre, les deux tiers de ce nombre seront intégrés dans l'armée en tant que soldats de deuxième classe. Le reste sera réinséré sur le plan socio-professionnel. Mamadou Samasekou nous en dit plus.
Des responsables de groupes armés signataires du défunt accord issu du processus d'Alger et des groupes d'autodéfense étaient présents au lancement de ces DDRI. Selon le gouvernement, les 2000 ex-combattants qui seront intégrés contribueront à la sécurisation du pays et la protection des citoyens. Faire du DDRI un modèle de réussite en matière de stabilisation et de réconciliation nationale est, selon le ministre, l'objectif recherché. D'où la nécessité d'œuvrer ensemble dans un esprit de dialogue et de confiance mutuelle pour garantir le succès de ce processus, a ajouté le général Ismaël Ouagui. Cependant, il a mis en garde les responsables des groupes armés concernés. Toute magouille est synonyme de disqualification. Rappelons que ce DDRI 2024 est l'une des recommandations du dialogue intermalien. Selon le journal des corps d'armée Ismaël Ouagui, le président de la transition accorde une attention particulière à la mise en œuvre effective de ce programme. Il a précisé que les mouvements opposés à notre État ne sont pas concernés par ce programme.
Toujours sur le même sujet, l'initiative vise à restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les maintenir définitivement au sein des forces armées maliennes? Des analystes sécuritaires préconisent plutôt la réinsertion socio-professionnelle de ceux qui se sont dressés contre l'État à leur intégration. Alousseni Guindo est analyste sécuritaire. Il est joint par Sita Sidibé.
Tous les groupes qui étaient dans les girons de l'État pour assurer la sécurité des vies et des biens des paisibles populations maliennes, où d'ailleurs l'armée régalienne n'était pas. Donc ces groupes-là ne sont pas inscrits dans la dynamique de combattre l'armée. Mais plutôt, on peut dégager une hypothèse venant de l'autre groupe qui, à un moment, se sont même dressés contre l'État. On peut douter que ceux-ci ne reviennent pas combattre l'État un jour. Dans notre analyse, dans les volets de réinsertion professionnelle, d'amener les groupes à un moment qui se sont dressés contre l'État à intégrer ces volets de réinsertion professionnelle et d'intégrer majoritairement dans le rang des militaires ceux qui se sont rangés du côté de l'État pour assurer la sécurité des vies et des populations des Maliens, des zones où l'armée n'était pas. C'est une des solutions vraiment pour pallier à l'insécurité.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Allons à Kadjolo. À présent, l'abondance de vieux billets de banque à la foire de la localité devient de plus en plus préoccupante pour commerçants et clients. Cette situation rend difficile les échanges commerciaux entre ces derniers. Pour les commerçants, ces billets chiffons proviennent en grande partie des clients venant des sites d'orpaillage. Rappelons que 4 des 9 communes du cercle de Kadjolo abritent des sites d'orpaillage. À présent, le dossier de la semaine. Sur le marché malien, on trouve plusieurs types de jus industriels. Les jus produits par des moyennes et petites entreprises locales et ceux autorisés à l'importation. Cependant, certaines de ces boissons sont présentées comme des produits naturels et ne contenant pas d'additifs ni de colorants. Des indications qui induisent souvent les consommateurs en erreur car selon les nutritionnistes, il est difficile, voire impossible, de conserver un produit 100% naturel au-delà de 3 jours. Et selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, le marché malien est de nos jours inondé de jus produits illégalement. Imenana Kilumaiga a dans ses dossiers rencontré les acteurs impliqués dans la production et les contrôles qualité des jus suivants ensemble.
Nous sommes au marché d'Abanani en commune 3 du district de Bamako du côté des revendeurs de jus. Au premier coup d'œil, nous pouvons détecter plus de 20 types de jus étalés à même le sol. Il y en a pour toutes les bourses, nous confie ce revendeur.
Depuis 1999, je vends les jus depuis 1999. Mes produits viennent de plusieurs usines maliennes. Nous prenons en gros auprès des propriétaires d'usines. Souvent, on paye en cash et souvent, on nous donne à crédit. Et après, on verse l'argent aux producteurs. Ce sont les jus pour enfants qui marchent vraiment. Les prix varient entre 25 et 100 francs CFA.
Le ravitaillement pour ce revendeur se fait localement auprès des petits producteurs. Mais ces derniers tiennent-ils compte des règles sanitaires lors de la production?
J'ai fait la production chez moi. Souvent, j'amène directement au marché où je le fais par commande. C'est 100% naturel. J'ajoute seulement un peu de sucre et de la poudre de citron pour la conservation. Je n'ai pas les moyens de faire inspecter les produits, vu que c'est une petite entreprise.
Nombreux sont pourtant les consommateurs qui ne mesurent pas l'ampleur du danger lié à la consommation de ces produits. Beaucoup se fient notamment aux indications sur les emballages et ignorent leurs conditions de production précaire.
Même si ce n'est pas 100% naturel, à mon avis, le pourcentage du naturel est plus élevé. C'est sans effet secondaire et sans produits chimiques. Chez moi, tout le monde consomme.
Dr Gara Bakari est le chef du département nutrition et sécurité alimentaire des aliments à l'ANSA. Selon lui, il y a actuellement 2 catégories de jus en vente sur le marché malien, les jus importés et ceux produits sur place. Il reconnaît cependant qu'en dépit de nombreuses mesures prises par le ministère en charge de la question, une bonne partie des productions locales échappe au contrôle des services étatiques.
Ça, c'est un phénomène qui constitue pour nous un défi par rapport aux jus qui pullulent. Il y a des jus de toute nature. Les jus qui ne sont pas aujourd'hui autorisés sont les plus nombreux. Les contrôles nous permettront de savoir si le produit doit rester sur le marché, oui ou non. Et si ça ne doit pas rester sur le marché, on fait simplement des saisies. C'est parfois musclé, quelle que soit la quantité pour la destruction.
En ce qui concerne certaines indications sur l'emballage, Dr Gara souligne que celles-ci sont assimilables à la publicité mensongère.
Les gens, pour attirer la clientèle, parfois, ils donnent des vertus ou en tout cas des propriétés à leurs produits qui peuvent influencer rapidement le consommateur.
Le jus d'un fruit 100% naturel ne peut être conservé au-delà de 3 jours, soutiennent les nutritionnistes qui ont préféré s'exprimer hors micro. Alors, que contiennent donc les jus et autres boissons dits 100% naturels?
Dossier signé à l'instant, Emirana Kilumeiga. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez réécouter ce journal et les magazines qui va suivre en appelant les services Kunafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute. Juliette Koulibaly sera là dans quelques instants pour le journal en langue nationale Bamanankan. Très bonne journée à tous. Le paludisme reste un problème de santé publique au Mali. Les données du système national d'information sanitaire le classent comme étant la première cause de morbidité et mortalité dans le pays. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les couches les plus affectées. Aussi, un rapport de l'Observatoire du paludisme sévère présente le pays au deuxième niveau où l'anémie grave causée par le paludisme chez les enfants de cette tranche d'âge est le plus élevée. Neuropaludisme chez les enfants, c'est le thème du magazine Tous les enfants du jour. Une présentation de Alice Cissé.
Le neuropaludisme ou encore l'encéphalopathie est la forme grave du paludisme selon des professionnels de la santé. La prévalence de cette complication majeure de la malaria chez les enfants est comprise entre 5 et 10% selon le programme national de lutte contre le paludisme. Dr Aïssata Kone, directrice du programme, impute ce chiffre au mauvais comportement de la population.
Il y a beaucoup de cas graves. Tous les cas graves en réalité ne sont pas des cas graves. C'est dû surtout à notre comportement. Sinon en général, les cas graves ne doivent pas dépasser les 5% au maximum, les 10% de la population. Donc, en principe, même si vous partez dans nos centres de santé, les cas graves en tant que tels ne devraient pas dépasser les 5%.
Des données statistiques montrent que plus de 40% des enfants ayant indiqué avoir de la fièvre n'ont pas consulté pour des soins. Des témoignages de parents d'enfants recueillis à l'intérieur du pays confortent ces chiffres. À Bankas, Mopti, Ségou, Sikasso ou encore à Yoroso, des mères interrogées affirment avoir eu des cas de paludisme dans la famille. Si certaines ont opté pour le traitement traditionnel de ces cas, d'autres se sont rendues dans un centre de santé.
Mon enfant tremble du fait du paludisme, mais ne convulse pas.
J'utilise les médicaments prescrits par les médecins dans le cadre du traitement du paludisme chez mes enfants. Par contre, je ne fais pas recours au traitement traditionnel.
J'utilise les médicaments traditionnels pour le soigner. Je n'attends pas que mon enfant développe un paludisme sévère. Je lui donne des médicaments traditionnels avant de le conduire à l'hôpital.
Des spécialistes de la santé affirment qu'environ un quart de tous les cas de paludisme signalés chaque année chez les enfants sont classés comme graves. Alors, comment se fait le diagnostic de cette forme de paludisme? Docteur Oumar Habibou Diallo, pédiatre, indique que 86% des enfants de 0 à 15 ans ont été testés au neuropaludisme en 2018 au CHU Gabriel Touré.
Le diagnostic peut être clinique devant des signes neurologiques comme une léthargie, une prostration, des convulsions, voire un coma fébrile, mais cependant, elle doit être confirmée par des analyses sanguines. Une étude réalisée en 2018 avait trouvé une fréquence de 86% de neuropaludisme parmi les enfants souffrant de paludisme grave au CHU Gabriel Touré.
Qu'en est-il donc de sa prise en charge? Docteur Aïssata Kone, responsable en charge du programme national de lutte contre le paludisme, répond.
Nous ne faisons pas de prise en charge sans test de diagnostic. Donc, c'est après les tests de diagnostic, quand c'est confirmé, nous donnons un traitement antipaludique. Maintenant, pour les cas de neuropaludisme, les mamans doivent amener tous les enfants dans un centre de santé le plus proche. Donc n'attendons pas que ça soit vraiment aggravé.
Des propos soutenus par Dr Oumar Habibou Diallo, pédiatre. Ce spécialiste énumère quelques pistes par rapport à sa prise en charge.
La prise en charge des neuropaludismes se fait toujours par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire, jamais par voie orale. Nous pouvons être amenés à utiliser soit les dérivés kinétiques, soit par l'utilisation des dérivés d'artésimine par voie intramusculaire, soit récemment par des dérivés de l'artésimine qui sont de plus plus en plus utilisée dans nos contextes. Et le traitement doit continuer jusqu'à ce que le relais par voie orale puisse être possible par le malade.
3,7 millions d'enfants de 0 à 59 mois ont été protégés contre le paludisme en 2024 selon le programme national de lutte contre la maladie. Cela à travers la chimioprévention du paludisme saisonnier administrée au Mali depuis 2012.